Europe 1, en balade avec Jean-Marie Perrier. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec le photographe Jean-Marie Perrier que nous partons en balade aujourd'hui. Au programme La rue Saint-Benoît, le haut lieu du jazz dans le Saint-Germain-des-Prés de son enfance et le quartier des Champs-Élysées où le jeune Jean-Marie Perrier allait du studio Marie-Claire à Europe 1 et d'Europe 1 à Paris Match, de Françoise Hardy à Marianne Faithfull et des Beatles aux Rolling Stones. Il nous a donné rendez-vous au Café de Flore.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
Bonjour Jean-Marie Perrier.
Bonjour mon ami.
Nous voilà donc au Café de Flore, au lieu de la vie parisienne depuis la fin du 19e siècle. Louis Mans, Charles Maurras, Guillaume Apollinaire, ils ont eu leurs habitudes bien avant Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Depuis, c'est Frédéric Becbédé qui a créé le Prix de Flore. Il y a chaque année une fête assez courue au moment de la remise du prix. Et vous buvez du thé.
Absolument, mais là tu as fait un saut énorme des années 50 à aujourd'hui. Donc là, c'est je vais avoir du mal à suivre.
Ça
oui, c'est un endroit absolument extraordinaire. Bon, le Flore, si tu veux, c'est un peu comme la rue Saint-Benoît, comme le club de jazz.
On est à l'angle du boulevard Saint-Germain, oui. De la rue Saint-Benoît. Hein.
Mais la rue Saint-Benoît dans les années 50, c'était vraiment le centre du monde. Il y avait tout ce qu'il y avait d'intelligent. De talentueux, de cinglés étaient sur ces trottoirs là, sur ces terrasses. C'était vraiment l'endroit absolument extraordinaire. Puis il y avait le centre du jazz avec le club Saint-Germain,
ouais, juste un peu plus bas,
et qui est devenu le Bistingo après. Alors là, c'était déjà moins bien parce que bon, c'était plus non. Le Flore ou le club Saint-Germain, j'y ai passé toute ma vie, surtout toute mon enfance. D'ailleurs, je me demande, je suis pas sûr de pas avoir été conçu dans l'un des deux. Parce que ma mère, qui est une femme magnifique, très drôle.
Jacqueline Porel.
Qui était, elle, une femme aussi, une femme, une fille d'eux. Parce que finalement, elle était la petite fille de Réjeanne.
Oui, qui était Réjeanne, la plus grande. Qui était une actrice aussi célèbre à l'époque que Sarah Bernhardt. Hein. Elle allait à New York, elle faisait un triomphe à New York, Réjeanne.
C'était les deux. C'était l'arrivée à New York ou au Brésil, c'était les Beatles, quoi. C'était hallucinant. Alors qu'il n'y avait pas de téléphone, pas le journaux, pas l'Internet. Comment c'est possible, je ne sais pas.
Et c'était votre arrière-grand-mère, vous ne l'avez pas connue.
Non, je ne l'ai pas connue. Et donc, cette rue était fantastique parce que donc il y avait tous ces gens dont je te parlais, et puis ma mère, qui était une femme très en avance sur son époque, elle aimait la vie, elle aimait chanter, elle aimait les hommes, elle était très en avance, mais elle était pas, c'était pas une femme libérée, c'était une femme libre, vraiment
affranchie. Au fond, il y en a à toutes les époques, j'ai l'impression.
Ah oui, sûrement, mais nous n'en avons pas rencontré assez. Mais elle dansait tous les soirs au club Saint-Germain. Alors c'était formidable pour moi quand j'avais 11-12 ans, parce que j'arrivais et je disais, je viens voir maman, et boum, là je pouvais rentrer. Et
elle dansait comme une cliente, hein. Elle dansait pas professionnellement.
Ah oui, non, bien sûr, non, elle dansait pour se marrer.
On dansait sur le bebop. Le bebop devant les grands jazzmen de l'époque.
Devant Dizzy Gillespie, tout ça, c'était extraordinaire. Ah non, c'est un endroit magnifique. Et c'est dans cette rue, d'ailleurs, que je me souviendrai toute ma vie, j'ai rencontré, c'était en 56, et il y a Alain Delon qui est passé. Et Alain Delon était absolument inconnu, il n'était pas acteur, il ne savait même pas qu'il le serait.
Il revenait d'Indochine,
il était rasé, il est passé dans cette rue, et je te jure, toutes les terrasses se sont arrêtées. Mais vraiment. D'abord, bien sûr, il était beau, mais il y avait autre chose quand même, parce qu'il émanait de lui quelque chose qui faisait que ces gens qui pourtant étaient très gâtés, en tout cas culturellement, se sont arrêtés et l'ont regardé passer. C'était absolument fascinant.
Il se passe exactement la même chose face à la photo que vous avez faite de lui à l'époque, au moment de la piscine. La photo qui est ressortie il y a quelques années,
oui,
pour ses verres de publicité au Sauvage de Dior. Cette photo d'Alain Delon extraordinaire.
Oui, qu'ils ont d'ailleurs... Ils ont eu une idée formidable. Hein.
D'effacer la cigarette qu'il avait dans la main. Déjà.
Non, c'est pas ça.
Mais ils l'ont fait.
Non, mais ça, c'est normal. Ah, oui, oui, non, mais les puristes toujours me disent, mais comment tu as osé les laisser faire, j'en ai à foutre d'abord. Avec le pognon qu'ils m'ont filé, j'étais d'accord. Mais surtout, non, ils ont eu deux idées formidables. D'abord, cette photo, elle était en couleur, ils l'ont passée en noir et blanc, ce qui fait que je suis passé de gentil photographe à grand photographe, d'un coup. Tu vois, parce que dès que tu as l'air d'un grand photographe...
Disons de photographe populaire à grand photographe.
Voilà, dès que tu veux faire grand photographe, il faut faire du noir et blanc. Donc ça, t'es pas sérieux. Bon. Ce qui est d'ailleurs une connerie, parce que c'est beaucoup plus difficile de faire de la couleur qui ne se démode pas.
Et il faut que le modèle fasse un peu la gueule, ce qui est bien avec Delon, parce que absolument. Généralement, vos photos, ils sont assez souriants. Johnny, Sheila,
ouais, non, mais
tant les Beatles, ils sourient trop.
Non, écoute, déjà, il avait la gentillesse de me laisser le photographier, ce qui est quand même assez rare. Parce que d'abord, ce n'était pas son exercice favori, il n'aimait pas ça. Et il était vraiment très gentil. Alors j'allais très vite, remarque. Hein. Mais ils ont eu donc deux idées. D'abord, la passer en noir et blanc. Et ensuite, alors évidemment, ils ont retiré la cigarette parce que pour un parfum, ça me semble normal. Mais enfin, montrer une photo de lui au moment où il est au top physiquement, le plus beau du monde, alors qu'il devait avoir quoi, 70 ans. Beaucoup de courage, hein. Ça n'avait jamais été fait. Ils l'ont fait avec Bardot après.
Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que les gens s'arrêtaient. Quand on la voyait affichée dans Paris, les gens s'arrêtaient devant, stupéfaits, un peu comme j'imagine ils devaient l'être quand Delon remontait la rue Saint-Benoît.
Il se passait quand même quelque chose chez ce mec-là que n'avaient pas les autres. Ouais. Et moi, j'ai toujours été très reconnaissant à Alain parce que. D'abord, il m'a laissé le photographier. Je l'ai connu en 56, mais après, je l'ai vu à la Madeleine. Je me souviens, il dînait avec ma mère. Je dînais avec ma mère. Il est arrivé à la Madeleine. Il y avait un miroir derrière ma mère. Et j'ai vu ce type arriver, donc j'avais vu qu'une fois. Et je dois dire que j'étais fasciné de le voir, mais physiquement, c'était hallucinant. Il s'est assis à notre table, je l'étais presque gêné. Quoi.
Cela dit, il y en a un qui était très, très beau aussi. C'est votre frère, c'était Marc Porel. T'es presque aussi beau que Delon. Il a joué les films de Visconti, il était magnifique.
Il était absolument magnifique.
Il a joué dans les films de Delon, d'ailleurs.
Oui. D'ailleurs, Alain l'avait pris sous sa coupe, un peu.
Ouais. Hein, il avait une classe folle, et il était très beau, et c'était un très bon acteur.
Et oui, malheureusement, bon, il a été tué par la drogue, comme beaucoup de gens à l'époque. Mais d'ailleurs, bon, souvent, on m'a demandé pourquoi moi, je ne m'étais pas drogué à mort. Parce que c'est vrai que quand j'étais avec les Rolling Stones ou les Beatles, dans les soirées, être celui qui refuse la boîte magique, c'est pas facile, tu vois. Mais en même temps, non, parce que finalement, ils voyaient bien que j'essayais pas d'être comme eux. Hein. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais je pouvais pas faire ça à ma famille, parce que j'ai eu deux frères quand même. Hein.
Ouais.
Un qui s'est jeté par la fenêtre à cause du LSD en 63. Et
ça,
mon
c'est
frère,
Jean-Pierre.
Oui, Jean-Pierre et Marc Porel qui s'est jeté, qu'on a trouvé avec une aiguille dans le bras. Bon, donc,
ouais.
C'est une horreur ce truc. Donc je ne pouvais pas faire ça. Puis de toute façon, je n'aimais pas l'idée de perdre pied complètement. J'ai fumoté.
On n'en dira pas plus. On fait une pause. On se retrouve juste après avec Jean-Marie Perrier.
Frédéric Taddeï. En balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
On est avec Jean-Marie Perrier, attablé au Café de Flore, entre le boulevard Saint-Germain et la rue Saint-Benoît. Jean-Marie Perrier qui vient de publier un gros livre avec beaucoup de photos, ça va sans dire, sur les années 60-70. Je n'étais pas au courant de votre histoire d'amour avec Marianne Faithfull avant qu'elle devienne la petite amie de Mick Jagger.
Non, mais d'abord...
On n'est pas au courant de tout. Oui.
Non, d'abord, on n'est pas obligé d'être au courant de tout. En plus, ensuite, comme elle n'en parlait pas, bon, je me suis dit peut-être qu'elle a honte. Hein. Bon, mais en fait, pas du tout. Je l'ai retrouvée depuis. Elle était très... Non, mais simplement... Bon, je crois aussi que son entourage préférait qu'elle n'en parle pas.
Elle ressemblait un peu à Miu Miu sur les photos que vous avez faites d'elle. Très romantique, très jolie.
Ah, tiens, j'avais jamais vu cette comparaison-là.
Un tout petit peu, oui.
Elle était d'une beauté. Puis alors, en plus, elle était très différente des autres. Parce que, au fond, curieusement, c'était peut-être la plus proche de Françoise, dans la mesure où...
Françoise Hardy, avec qui vous aviez une autre histoire d'amour plus longue.
Ah oui. Mais c'était une fille très cultivée, hein, Marianne.
Ouais.
Et qui venait d'une famille particulièrement...
Elle descendait de Sacha Mazoch, non ?
Oui. Ça, j'ai jamais su ça, mais enfin, en tout cas,
ça fait partie de sa légende.
Oui. Mais elle était très rare, elle était très, très, très différente. Et puis alors, d'une beauté fracassante. Et donc, mais pendant un an, on a passé un an à se voir tout le temps. D'ailleurs, j'ai très peu de photos d'elle, parce qu'on ne faisait pas de photos, on avait mieux à faire. Et je me souviens toujours du jour où elle m'avait demandé de venir la rejoindre en Angleterre. Et ensuite, elle m'a emmené chez ses parents à la campagne pour me présenter à ses parents. Donc c'était sérieux quand même. C'était magnifique, magnifique. Et c'est ce jour-là, je me souviens, j'ai eu une photo. Après le déjeuner, on est allé se promener dans la campagne. Et il y avait une forêt, et il y avait une clairière dans cette forêt, elle s'est allongée, j'ai fait une photo, elle est somptueuse, tel très beau moment. Et puis alors un jour, je ne sais pas pourquoi, au bout d'un an, hop, elle a disparu, et je l'ai retrouvée au bras de Mick Jagger. Bon, alors j'étais content pour elle, parce que moi j'aimais beaucoup ce type-là, puis je me suis dit, elle va vivre des trucs extraordinaires. Bon, donc, mais bon, elle, d'abord, elle aurait pu me le dire, mais surtout, je pense que si elle était restée avec moi, elle aurait peut-être été en meilleure santé quand même. Parce que
elle aurait pris moins de drogue.
C'était rude quand même de vivre, pas avec lui, mais de vivre avec les Stones, il fallait suivre. Hein.
Europe 1, 11h30, en balade avec Jean-Marie Perrier. Frédéric Taddeï.
Vous avez failli vous tuer quand même avec Johnny Hallyday en Lamborghini. D'ailleurs, Europe 1 a annoncé votre mort à l'époque.
Oui, ça c'est affreux.
Ouais.
Oui, enfin c'est affreux. C'est affreux pour mon père parce qu'on était partis, je me souviens, de Saint-Tropez. Et après le spectacle, il sort de scène avec les cheveux collés, bien avec le costard en soie noire.
Il transpirait beaucoup.
Et pendant deux heures, il donnait son corps, il faut bien le dire. Et il me dit, bon, tu viens, on va à Tarbes. Ou à Tarbes ou à Bayonne, je ne sais plus. Bon, je ne sais pas si tu as vu déjà la route. À l'époque, il n'y a pas d'autoroute. C'est quand même 600 bornes de nouilles. Hein. Bon, donc, on part à 2h du matin. Et c'était le 1er septembre. C'est-à-dire que c'est le jour où les gens revenaient de vacances. Nous, on allait vers la mer. À gauche, il y avait des voitures comme ça qui défilaient à fond. Et à droite, il n'y avait rien la nuit. Et puis, bon, au petit matin, il y aura cette flaque d'huile hypothétique qui nous balance à 140 chronos dans un arbre qui n'en revenait pas et qui n'en est pas revenu d'ailleurs. Et là, c'est vrai que j'ai vu Jojo qui a sauté de sa voiture et je l'ai regardé de dos, il partait, il s'éloignait et en fait, il était en train... D'abord, il pensait vraiment qu'il était en train de mourir parce que quand on voit l'état de la voiture, même moi, je pensais que j'étais une sorte de Magritte avec un trou, on voit les nuages à travers... Et il s'éloignait comme ça de dos, et il était en train de vivre sa mort comme James Dean, forcément.
Oui, il la jouait, disons.
Il l'interprétait, il pensait que s'il mourait, ça pouvait être qu'en cinémascope, quoi.
Mais ce que vous racontez qui est très drôle, c'est quand il s'aperçoit qu'il n'est pas mort, en fait, il se retourne vers vous, comme vous avez du sang, et il joue votre mort à vous, il vous met un drap sur la tête.
Oui, parce qu'en réalité, ma mort à moi était beaucoup plus francouillarde, j'étais à quatre pattes dans l'air, mais j'étais en sang, bon. Donc il y avait des gens qui étaient descendus. Parce que bon, pour les gens, c'était formidable.
C'était Johnny en train de mourir.
Quand même, c'est pas tous les jours, c'est un beau souvenir de vacances quand même. Donc, ils étaient agglutinés autour. Et moi, je me fraye un chemin et je le vois par terre. Et je pensais vraiment, j'avais une trouille bleue, je pensais qu'il était en train de mourir. Et je le vois là, et tout à coup, il ouvre un œil, il me voit, et il s'assoit, il fait « j'ai rien ». Comme d'habitude,
mais
il avait
rien. Mais qu'est-ce qu'il a pu casser comme voiture, Johnny ? Il y a une photo très belle de lui que vous avez prise, où il est au volant de sa Ferrari California, et elle aussi, il l'a emplâtré contre sa camion.
Elle a duré une heure et demie, c'est-à-dire qu'il l'a touché, comme on disait à l'époque, du garage le matin. Il m'appelle, il me dit « ah, ça y est, j'ai la Ferrari, viens, on va aller au bois de Boulogne, on se retrouve, faire la photo ». Il arrive, on fait la photo, il me dit « bon, on se retrouve au Phuket, hein, tout à l'heure à midi ». Oui, d'accord, il part, zoom, et au prochain croisement, boum, il explose.
Les voitures étaient omniprésentes, d'ailleurs, dans ce livre. On en voit, il y en a partout.
Ah, bon, c'est qu'à ça, mais à l'époque, ça valait la peine. Ouais. Mais quand j'y repense, d'ailleurs, j'ai une trouille bleue.
Mais je crois que c'est, on a toujours aimé le jeu et le danger. Je crois qu'à l'époque, c'était le jouet le plus dangereux, en fait, la voiture.
Oui.
Je me demande si ça n'a pas été remplacé par la drogue que vous combattez tellement.
Ah, c'est possible. Ah oui, c'est possible, j'avais jamais pensé à ça. En tout cas, quand je me souviens de la vitesse à laquelle on allait, je veux dire, on faisait Paris-Nice en 6h30, hein, c'était monstrueux, on partait dans le village à fond. Mais j'ai honte quand j'y pense, vraiment j'ai honte.
Au fond, les garçons rêvaient de voitures de sport, les filles rêvaient du prince charmant, elles voulaient se fiancer, puis se marier. Elles étaient assez sages, hein, les filles, toutes celles que vous avez photographiées à l'époque.
Les filles étaient assez sages jusqu'aux années 70, oui.
Ouais, dans les années 60, c'était encore...
Oui, mais les années 60, il y a quand même une innocence dans les années 60. Les années 70, c'est un peu l'âge adulte des années 60. Ça commence à se gâter.
On en reparlera tout à l'heure.
Le pognon arrive.
On en reparlera tout à l'heure. On va d'abord... Bah tiens, on va aller faire un tour dans les années 50, rue Saint-Benoît, puisqu'on est juste à côté.
Faisons donc.
À tout de suite. Nous sommes rue Saint-Benoît avec Jean-Marie Perrier, juste devant le Montana, qui a été le club hyper branché des années 2010. Mais vous, ce qui...
J'y suis jamais allé, moi.
Vous n'êtes jamais allé. Vous sortez plus, alors ?
Non.
Bah, écoutez, il y a la boîte tout en dessous.
Oui,
là. Après, il y a un hôtel au-dessus, puis un rooftop. Mais maintenant, c'est redevenu un hôtel. Mais... C'est autre chose.
Ah oui, ils ont arrêté la boîte.
Arrêté.
Ouais. Non, mais les boîtes, ça n'existe plus, de toute façon.
Vous ne sortez plus, surtout.
Non.
J'allais pas me faire le coup, c'était mieux quand j'avais 20 ans.
Ça, c'était beaucoup mieux.
Ah si.
Bah oui, Castel, bon, Ils ont inventé quand même quelque chose, ces gens-là, hein, Castel. Surtout, moi, j'aimais beaucoup la boîte de l'Élysée Matignon à l'époque.
Parce que c'était Sartel.
Oui, parce que c'était le seul à Paris qui faisait croire qu'il y avait une porte alors que tout le monde rentrait, en fait. C'était un bordel noir là-dedans, mais c'était formidable. Je me suis bien marré avec Gainsbourg là-bas. Alors là.
Là, en face de nous arrivons. C'était le Club Saint-Germain.
Qui était le centre du monde du jazz. Alors, il y avait donc, là où il y a le marqué le 13, il y avait une petite porte qui descendait en bas, avec un sbire devant, qui filtrait un peu quand même.
Il faut dire que c'était le club très chic hein, du jazz, c'était la jet set qui allait...
Oui, mais c'était une cave, une cave en fumée quand même. Putain, on fumait là-dedans, c'était monstrueux. Et à côté, il y avait donc le restaurant. Mais ça, par contre, curieusement, je ne me souviens plus du tout du restaurant. J'ai remarqué le restaurant au moment où c'est devenu le Bill Boquet, qui n'avait plus rien d'intéressant, vraiment. Alors, au départ, moi, j'allais voir ma mère. Donc, je regardais et j'écoutais tous ces musiciens qui me fascinaient, que j'avais écouté toute mon enfance. Parce que moi, j'étais musicien, je pensais qu'à ça, j'aimais que ça.
Jusqu'à l'âge de 16 ans, hein,
vous avez raconté. Oui, mais on ne va pas s'étendre, mais je te dirai en résumé. Et tout à coup, quand je vais rencontrer Philippe Aki, tout à coup... Je vais pouvoir leur parler, ces gens-là,
que je regardais de loin. Dizzy Gillespie, que vous avez pris en photo,
et puis
Cambesi, tous.
Et puis Ella Fitzgerald, qui était folle d'amour pour moi.
C'est vrai ?
Bon, ça, c'était terrible. Ça, c'était, oui,
c'était très beau.
Oh, j'étais pas mal. Ouais, d'ailleurs, on devrait le dire beaucoup plus quand on est jeune.
Il fallait vous prendre en photo, il fallait prendre des autoportraits, des selfies.
Non, ça, je fais pas ça, ça m'intéresse pas. Non, mais... Ella Fitzgerald, c'était en 57, je crois. Daniel m'avait filé un Leica, il m'avait envoyé en tournée avec Dizzy Gillespie et Ella Fitzgerald. Je sais pas si tu vois, j'avais 17 ans et j'en faisais 12 à peu près. Donc, hein. Alors Dizzy Gillespie, déjà, bon, je suis sur le tarmac de Nice pour aller à Juin-les-Pins au festival. Et à l'époque, les photographes pouvaient attendre les avions sur la piste, en bas de l'échelle. Tu vois, arrive le super Constellation, et les photographes, ils se demandaient ce que je foutais là. C'est qui ce mot, mec? Tu vois, j'étais vraiment ridicule. Dizzy arrive, il ouvre la porte, hop, il descend avec sa mallette. Et tous les photographes le mitraillent, et ils se précipitent sur moi, parce que je le connaissais, moi, par Philippe Aki. Les autres, les photographes, ils étaient absolument écœurés. Et ils m'embarquent vite, en me disant, vite, faut qu'on se tire, parce que... Ma femme est tellement bourrée qu'elle croit qu'on vient d'atterrir à New York. Effectivement, en haut de l'échelle, je vois une meuf avec le chapeau de travers. Et on s'est tiré en voiture. Et c'est dans ce voyage entre Juin-les-Pins et Nice qu'il m'a dit, bon, écoute, dès qu'on arrive, on se baigne. Hein. Oui, d'accord. Mais je dis, prends ta trompette parce que ça, je pourrais faire une photo. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première photo en couverture du Jazz Magazine.
Et c'est ici au Club Saint-Germain que a été enregistré le célèbre disque d'Art Blakey et les Messengers, produit par Phil Blakey, à l'époque, qui va être le disque de jazz le plus vendu en France, où Art Blakey joue le Blues March.
Blues March,
pour Europe 1. Voilà. Bon, on va l'écouter tout de suite, ça vous rappelle cette époque.
Frédéric Taddeï se balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
Thank you.
c'est Blues March for Europe numéro 1. C'était Europe numéro 1 à l'époque, interprété par Art Blakey et les Jazz Messengers, parmi lesquels, évidemment, il y avait Lee Morgan à la trompette, mais vous ne m'avez pas dit pour Ella Fitzgerald.
Oui, Ella Fitzgerald. Alors donc, en 57, je suis en tournée avec Dizzy et elle. Et je sentais bien, on voyait, il était évident qu'elle me trouvait très mignon. Mais bon, moi j'avais 17 ans, j'étais vierge comme le canal sous la Manche, et j'étais terrorisé. Bon. Et tout à coup, Dizzy un soir m'enferme dans sa loge avec elle. Bon. C'était affreux parce que je l'adorais cette femme, j'entendais toutes ses musiques, je les connais par cœur. Elle a été adorable, bon. Hein, elle a compris, bon, donc, il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, je le regrette, évidemment. Parce que commencer sa vie sexuelle avec Ella Fitzgerald, ça te pose un mec quand même, bon. C'est comme ça, encore une occasion ratée.
Europe 1, en balade avec Jean-Marie Perrier, Frédéric Tadéhi.
On se souvient tous de cette célèbre photo que vous avez prise en 1966 avec tous les yéyés pour saluer les copains. Mais quel dommage que vous n'ayez pas fait la même avec tous les grands jazzmen à l'époque qui venaient rue Saint-Benoît. Vous imaginez la photo que ça aurait été ? Parce que là, il n'y avait que des génies. Hein.
Ah, il n'y avait que des génies. Mais elle a été faite d'ailleurs par Art Kane, je crois, à New York. Ouais.
Vous avez fait ensuite, quand vous faisiez des photos de mode pour elle, vous avez fait les 50 plus grands couturiers de la planète pour les 50 ans de elle.
Ah, mais c'est un mensonge.
Ah oui, mais je me suis toujours demandé comment vous aviez fait pour les mettre ensemble, parce qu'ils ne peuvent pas se
dérouler. Impossible. C'est impossible. Je veux dire, parce que si on met McQueen et Galliano dans la même pièce, il y a un meurtre. Hein. Et en plus de ça, ils étaient très occupés, ces gens. Ils étaient pendant les collections, ils ne peuvent pas être tous en même temps. Donc c'était magique, parce que pendant 3 jours, on avait installé tous les sièges avec leur nom. Et toute la mode mondiale est passée venir s'asseoir tranquillement. Et alors, évidemment, parce que ça, c'est le grand secret des photos de groupe, j'avais dit, surtout, vous mettez le plus important, c'est-à-dire Yves Saint-Laurent au troisième rang, derrière. Surtout dans la mode, ou alors les collections, s'ils ne sont pas au premier rang, c'est des ringards. Donc, si tu veux, il ne fallait absolument pas les mettre devant. Ça, c'est le secret des photos de groupe.
S'il y a Yves Saint-Laurent au troisième rang, tout va bien.
Personne ne dit rien.
Oui, c'est ça.
Mais si jamais on le met au premier rang, c'est foutu. Alors là, c'est la guerre. Hein. Donc c'était absolument magique. Mais donc après, on les a collés, un par un. Ça fait une photo de classe fausse. J'adore ce moment parce que c'est un moment qui n'existe pas.
On se retrouve dans un instant avec Jean-Marie Perrier dans un autre moment qui n'existera probablement pas. Nous continuons notre balade dans la rue Saint-Benoît avec... Jean-Marie Perrier, on passe devant le relais de l'Entrecôte, où les gens font la queue le soir pour dîner. Paraît-il, il y a une petite sauce qui fait venir les foules. Un peu plus loin, il y a le petit Saint-Benoît, qui est resté restaurant populaire.
Celui qui est sur la gauche, là.
Il est bien.
Ah,
il est formidable.
Il est bien.
Il est resté intact, j'ai l'impression.
Un vrai bistrot.
Exactement.
Non, mais il n'y en a plus beaucoup, les vrais bistrots, parce que partout en France, moi qui voyage beaucoup en France, je vois que tous les restaurants en province veulent faire comme ils pensent que c'est à Paris. C'est-à-dire, tu vois, ils te filent une mini-hardisse que tu n'as pas demandé, ils t'interrompent alors que tu es en train de parler avec la femme de ta vie pour te raconter ce que sont, on se fout parce qu'on n'a pas commandé.
Ils te disent bonne dégustation.
Ah, bonne dégustation, c'est à mourir. Et en plus, ensuite, ils te filent une assiette carrée, une espèce de mondrian avec trois asperges qui se bagarrent et 5 gousses de vinaigre, alors que ce qui marche à Paris, c'est les restaurants de terroir. C'est quand même étrange.
Eh oui, ça a toujours été comme ça.
Donc celui-là est un vrai et il est resté vrai.
Mais cela dit, vous avez non seulement vécu, mais photographié une époque où on rêvait beaucoup, on rêvait de...
D'Amérique d'abord.
Où on rêvait d'une Amérique imaginaire que vous avez parfaitement su reconstituer d'ailleurs dans votre photo.
Je fais amende honorable parce que j'ai quand même contribué à polluer la jeunesse française avec nos idées d'Amérique qui n'existent
pas. Je ne sais pas si vous avez pollué la jeunesse de l'époque, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les années 60 dont se souviennent les Français, je pense que ce sont les années 60 de Jean-Marie Perrier. Un peu comme on se souvient des années 80 de Jean-Paul Goude.
Ah oui, mais Jean-Paul, c'est la taille au-dessus, attention. Hein.
Ouais, toujours à vous diminuer.
Non. Moi, je suis un très bon photographe qui a eu beaucoup de chance. Lui, c'est un artiste, c'est-à-dire qu'il est seul. Moi, j'ai travaillé pour un journal. Deux journaux, d'ailleurs, oui. Après. Non, mais c'est vrai, ça change tout. Parce qu'un journal, ça donne un cadre, il y a des limites et tout. Bon. Et puis, on n'est pas tout seul. Tandis que Jean-Paul, lui, ce qu'il a fait, il a fait d'abord toute sa vie le même sillon. Lui, pour moi, c'est le plus grand de ma génération, mais de très loin.
Mais ce qui est drôle, c'est que vous, tout est mis en scène.
Ah oui.
Hein, c'est-à-dire que c'est une espèce d'idéalisation de la jeunesse, de l'époque, de la France, de l'Amérique.
Oui, mais il faut comprendre une chose, c'est que c'était fait pour être affiché au mur des chambrettes des adolescents.
Bon, les posters.
Les posters à l'époque, mais même les pages étaient des posters. Donc il fallait les faire rêver, il fallait faire du spectacle. De toute façon, la vérité, la réalité, ça ne m'intéresse pas et je ne sais pas le faire. Il y a des mecs qui font ça très bien. Moi, je mens. Moi, je suis là pour faire du spectacle. Je ne veux absolument pas dire la vérité. Mais c'était très impressionnant quand je me baladais en tournée avec Johnny ou Claude François, je sais pas, et je regardais en l'air et je voyais toutes mes photos sur les murs des chambrettes des adolescents. Bon, voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens disent que mes photos rappellent... Oui, ça rappelle leur jeunesse, c'est tout.
Il y avait cette innocence, effectivement, qu'on voit bien dans vos photos. Il y en a dans le livre qui vient de sortir, là, il y en a où vous prenez en photo ensemble Brigitte Bardot et Sylvie Vartan. Et c'est drôle parce que Brigitte Bardot, elle a l'air du diable à côté. Ils étaient innocents.
Oui. Non, mais elle était gentille. En même temps, j'aimais beaucoup, moi, Brigitte.
Ah, mais moi aussi.
Et puis...
mais vous racontez, par exemple, que quand vous avez présenté Brigitte Bardot aux Beatles, à l'hôtel Georges V, qui reste bouche bée. Ils ne savent pas quoi lui dire. Elle les impressionne.
Oui, mais en même temps, c'était réciproque. Parce que finalement, ces gens qui étaient à eux cinq, ils étaient en train de révolutionner la planète.
Ah, c'était sans doute les cinq plus grandes stars de la planète à cette époque.
Et ils ne savaient pas quoi se dire. Ce que je comprends très bien, d'ailleurs, parce que... à part des banalités, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent quand ils ne se connaissent pas? Alors ils étaient là, elle regardait.
C'est pourtant c'est les Beatles qui voulaient la rencontrer. Hein.
Ah oui, c'était John. Ouais. John, il m'a fait chier avec ça pendant des mois.
Et le plus drôle, c'est que vous ne prenez pas de photos. Aujourd'hui, ils se seraient tout de suite pris en photo, ils auraient fait des selfies, ils les auraient mis sur Instagram. Oui. Vous ne pensez même pas les prendre en photo?
Non, c'est pas que je ne pensais pas, c'est que je n'avais pas d'appareil, parce que moi, je passais beaucoup plus de temps avec tous ces gens à vivre plutôt qu'à faire des photos. Mais non, parce que de toute façon, je faisais pas de photos réalistes, donc je n'avais pas un appareil sur le pif tout le temps. Et je préférais vivre les moments.
C'est pour ça que vous les avez vraiment vécus, ces moments-là, avec eux. Ils vous emmènent tous partout. Faites la tournée des Rolling Stones. Vous
J'en dormez ai fait dans cinq.
Le même, vous dormez dans le même lit que Claude François.
Non, mais c'est
vous
vrai.
Vous êtes là tout le temps.
Oui, c'est le fait de vivre avec eux comme ça qui était merveilleux. Mais c'est pour
qu'avec
ça.
Avec un appareil photo, ils vous auraient viré.
Non, mais j'aurais pas été le même avec eux, j'aurais été gênant, quoi, parce qu'ils auraient dû faire attention, là, ils étaient tranquilles, donc ce jour-là, j'étais pas avec un appareil.
Frédéric Taddeï se balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
Bah, bien sûr que vous étiez, au fond, le plus bourgeois de la bande.
Ah oui,
parce
bien
que
sûr.
Vous aviez grandi à Neuilly, dans un bel hôtel particulier.
Absolument.
Avec un très grand acteur.
Et puis tout le monde passait chez moi.
Voilà.
Donc non, c'était. Moi, j'allais jouer de l'autre côté de la Seine. Il y avait la péniche de Jean Marais avec Jean Cocteau. J'allais jouer là-dessus. Tout était hallucinant dans mon enfance. Et c'est ça qui me fascinait chez tous ces jeunes gens. Parce qu'eux, ils partaient de rien. François, c'est une prolo au départ.
François Hardy, ouais. Hein,
François Hardy, c'est une prolo. Eddie Mitchell aussi. Sheila aussi. Et les Beatles, il y en a, c'est vraiment des mecs qui partent de rien. Bon, moi, j'admirais énormément ça.
Johnny Hallyday, c'est celui qui est le plus différent, parce que lui, c'est un vrai enfant de la balle.
Oui, lui, c'est déjà un saltimbanque, donc ouais. Il n'est pas tout à fait parti d'en bas. Il a eu une vie difficile au départ aussi, quand même. Mais j'avais beaucoup d'estime pour ces mômes-là. Alors, il devait le sentir, puisque au fond, moi, je pensais qu'il allait mettre en valeur. Et puis, il devait sentir aussi, j'en savais beaucoup plus que eux, sur ce qu'allait leur arriver. Parce que moi, les coulisses... Hein, de la vie de star, je connais ça depuis que je suis né. Hein, les courtisans, les mecs qui t'expliquent, on va t'arranger un problème qu'ils ont eux-mêmes d'ailleurs inventé. Tout ça, je connais par cœur. Donc, ils le sentaient. Et puis, ils voyaient bien que j'essayais pas d'être comme eux, parce que ce qui était fou, c'est que tous les gens qui vivaient autour des Rolling Stones, par exemple, ils étaient des Rolling Stones.
Ils voulaient être des Rolling
Stones.
Tu vois,
alors ils s'habillaient pareil, ils fumaient pareil. C'était grotesque. Je me souviens, j'ai un photographe, je l'avais envoyé faire des photos de Bob Dylan. Il est revenu, c'était Bob Dylan, le mec. Tu vois, bon, donc... Donc je dis non, faut pas. Moi j'étais en cravate. D'ailleurs tous ces gens qui veulent absolument ressembler à quelqu'un, ça me sidère moi.
On va prendre un taxi, Jean-Marie Perrier, puis
donc.
On va aller pour la suite de vos aventures. Plutôt les années 60. Maintenant c'est plutôt rive droite. Hein. C'est vers les Champs-Élysées.
C'est donc avant.
C'est vers Europe.
Enfin, avant et après. Oui. Ouais. Oui.
Allez, on y va.
Frédéric Taddeï en balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
Dans votre livre sur les années 60-70, Jean-Marie Perrier, vous vous souvenez que la première fois que vous avez effleuré la main de Françoise Hardy, c'était dans une voiture, comme celle dans laquelle nous nous trouvons, en écoutant Timmy.
Timmy Euro, il me souvient.
Voilà, qui chantait Hurt. Un sacré slow.
Ah, c'était beau. Enfin, ça présageait pas de beaucoup de bonheur en même temps, mais c'était absolument somptueux, cette chanson. Oui, je me souviens. Mon Dieu, qu'elle était belle. Et en plus, elle ne le savait pas. C'était vraiment un enchantement, cette
fille. Ah oui, c'est mieux quand on ne le sait pas. C'est le photographe qui parle.
Non, pour le photographe, c'est idéal. Mais c'est surtout pour le garçon. Alors là, ça a tombé par terre. Non, les gens qui savent qu'ils sont beaux, ce n'est pas très intéressant.
Mais à 18 ans, la plupart des filles ne savent pas qu'elles sont belles.
Oh, j'en ai connu, moi.
Oui, qui le savait déjà?
Qui le savait depuis déjà 14 ans.
Ah, vous ne saviez pas que vous étiez beau. Vous aviez quoi, 22 ans à l'époque?
Non, mais j'étais une fille pas très, pas très avancée.
You said your love was true. And we'd never.
Frédéric Taddeï se balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
On a toujours l'impression, peut-être parce qu'il y avait des slows formidables, c'est le début des slows de l'été des années 60. Hein, et d'ailleurs, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Non, on a l'impression que c'était très différent de flirter dans une voiture, toujours dans une voiture d'ailleurs.
Ils se cognent maintenant alors que c'était tellement bien les slows. Oh là là. Oh les slows, dis donc. On peut faire une petite minute de silence là pour le slow.
D'accord. Et puis on peut l'accompagner avec une chanson de François Hardy. Moi j'adore Voilà.
Voilà, oui. Très belle chanson.
Très belle chanson. Presque un slow.
Voilà. Je regarde les autres. Pourtant, je ne leur trouve rien. C'est comme ça. Voilà, je vais avec les autres. Le temps passe plus mal que bien. C'est comme ça. Et toi, que fais-tu? Es-tu content de tout? Va retrouver cet autre. Tu l'aimes, ou c'est ce que tu crois? C'est comme ça. Voilà. On n'a rien, rien de plus à se dire.
C'était Voilà, chanté par Françoise Hardy. C'était la, l'une des seules, peut-être la seule auteure, compositrice, interprète de cette époque. Ensuite, il y aura Nino Ferrer qui va arriver.
Ah, non, mais ça change surtout avec Dutronc et Lanzmann. Hein.
Ouais. Mais Dutronc, il a besoin d'un parolier, c'est
Lanzmann. Ah, alors,
que Françoise, elle fait tout.
Oui,
elle écrit les paroles, la musique, elle
absolument,
chante.
Oui, mais enfin, non, les musiques, elle en a fait faire aussi après, mais c'est vrai qu'elle était la seule du genre, parce qu'à l'époque, tous d'abord, bon, ils faisaient des chansons américaines reprises, et bon, les types qui faisaient la traduction, c'était pas Marcel Proust, hein. Donc c'était un peu lourdingue quand même, hein.
Bon,
au baby, allons danser, bon, c'était un peu juste. Et Françoise, c'était ça sa particularité. D'ailleurs, elle n'a pensé qu'à une chose toute sa vie, c'est d'écrire. Elle a écrit tous les jours. Ouais. Tous les jours de sa vie, elle était en train d'écrire.
Et c'est drôle comme elle était l'idole à la fois des rockstars anglo-saxons,
ouais.
Des Rolling Stones, de Bob Dylan.
Elle ne s'en rendait pas compte du tout.
Bob Dylan, on a l'impression, il vous laisse le photographier dans sa chambre d'hôtel. Lui vous le prenez sur le vif. Hein. On sent ses photos. Et on a l'impression qu'il s'intéresse à vous.
Non,
que vous étiez le petit ami de François
Hardy. Uniquement, d'ailleurs, j'ai parlé avec lui deux fois. Parce que le problème avec Bob Dylan, c'est que je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Donc, c'est les seules photos que j'ai faites qui ne sont pas du tout mises en scène, alors, oui. Hein, parce que ce n'est pas possible. Et puis, il m'a fait, un jour, il m'a appelé dans sa loge, et puis il m'a commencé à me parler de Françoise, mais c'était un peu salace. Il me demandait alors comment ça se passe et tout. Bon, j'étais un peu gêné. Et puis j'ai compris, effectivement, qu'il s'y intéressait beaucoup. Il était vraiment très, très... Mais alors, ce qui est fou, c'est que quand il passe à l'Olympia et que Françoise y est... Moi, j'étais pas là parce que je pouvais pas. Donc, je dis, mais vas-y, elle adorait ce mec. Je dis, vas-y. Bon, elle se trouve dans la salle avant le spectacle. Lui fait dire à Françoise qu'il ne chantera que si elle vient le voir dans sa loge. Et non seulement, déjà, c'est un peu gonflé, mais elle arrive dans sa loge, il prend sa guitare et il lui chante « I want you ». Attends, ça aurait été un Français. T'imagines, un Français fait venir une jeune fille qui lui dit « Je te veux ». C'est un peu gros quand même.
Ça aurait fini sur « Balance ton porc ».
Frédéric Taddeï se balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
Oh non, mais il était gonflé quand même. Bon, je sais que c'est Bob Dylan, mais enfin quand même, c'était un peu Frédéric François comme genre.
Ouais, enfin, il a tenté sa chance, quoi.
Bon, on peut le faire de façon un peu plus subtile.
Oui, mais enfin, c'était Françoise Hardy. Elle était l'idole des couturiers aussi. Tout le monde rêvait de l'habiller. Vous faites des photos d'elle qui sont quasiment des photos de mode où elle a l'air d'un naturel confondant. Et elle porte des tenues insensées.
Et en plus, elle s'ennuyait pendant tout ça, parce qu'elle comprenait pas tout ça, l'intéressait pas, les photos, les films, les interviews, les télés, elle comprenait pas. En plus, j'ai fait la bêtise de la pousser à faire du cinéma, ce qui était le contraire de ce qu'elle avait envie de faire.
Elle n'était pas faite pour ça.
Non, du tout, elle comprenait pas ce qu'elle faisait là. Non, elle voulait écrire, c'est tout. Mais c'est vrai qu'elle était d'une beauté incroyable, on pouvait lui mettre n'importe quoi. C'était un vrai porte-manteau, quoi. Tout allait. C'était merveilleux.
Mais ce qui est drôle, au fond, c'est que personne ne se prenait au sérieux, on a l'impression. En tout cas, ça n'avait pas l'air sérieux, tout ça. À part Bob Dylan, justement, qui se prend un peu au sérieux sur vos photos.
Oui, mais sinon... bon, je comprends, parce que ce qu'il écrit est vraiment sérieux. C'est quand même lui qui change les paroles américaines.
Il y en a un autre qui se prend au sérieux, c'est James Brown, qui fait des photos formidables de lui.
Ah, oui,
mais on sent qu'il pose devant sa maison, il pose comme un PDG, dans son bureau, dans son jet. On sent que lui, il veut trouver quelque chose.
C'est normal, à l'époque, je te signale qu'il y a encore les Noirs à l'arrière du bus. Hein.
Ah, oui, c'est la ségrégation.
Donc pour lui, c'est une revanche extraordinaire, donc ils veulent le montrer à toutes les minutes de sa vie.
Et la seule fois où il sourit, c'est quand il vous emmène à l'Apollo de Harlem, au fond. Et là, tout à coup, il redevient James Brown.
Mais il avait une loge à l'année, hein, pour lui, vide. Et quand il arrivait n'importe quand, il arrivait, hop, et la salle s'arrêtait, le spectacle s'arrêtait, la salle se levait, tout le monde, et on l'applaudit. C'était le roi. C'était vraiment le roi.
Il faut dire, il a révolutionné la musique à ce moment-là.
Ah, mais c'était un type extraordinaire.
Autant que les Beatles, hein.
Autant que les Beatles, peut-être pas, mais parce que lui, il est quand même la suite d'eux. Puis il y a Chuck Berry, il y a d'autres gens.
Il révolutionne la musique noire de l'époque, comme les Beatles révolutionnent le rock.
Oui, mais les mélodies des Beatles, c'est leur grande force quand même. Ça restera.
Ouais, et le rythme de James Brown.
Oui, mais bon, oui, mais qui écoute James Brown aujourd'hui?
Ils l'ont tous pillé, de toute façon, y compris Mick Jagger.
Alors, Mick Jagger, non, mais c'est-à-dire qu'au départ, et les Beatles et eux, leurs deux premiers disques ou trois premiers disques, c'est des chansons de Chuck Berry, Bo Diddley, B.B. King, et voilà, c'était. Mais ce qui est formidable, je me suis toujours demandé si c'est pas quand ils ont entendu Bob Dylan qu'ils se sont dit, mais dites donc, on peut dire des trucs, nous. Non, mais c'est
oui,
vrai.
Oui, avant, c'était ça un peu gnangnan.
Ouais. Bah, avant, c'est « I want you, I love you, I need you. Oh, please, baby, don't go. Don't, I'm gonna love parlant you all de... night long. » Voilà, ça y est, t'as toutes les paroles des chansons américaines, là.
Parlant de Chuck Berry, vous avez quand même traversé le sud des États-Unis avec lui en bagnole, dans sa Ford Thunderbird.
Oui, c'était formidable.
Chuck Berry, c'est quand même...
Il était tellement radin qu'il voulait ni manager ni musicien. Donc... Au fond, moi, je le dérangeais pas parce que je ne coûtais rien d'abord. Et puis, il était très content d'avoir un compagnon comme ça. Et on a traversé tout le sud. Et je me souviens que quand on arrivait dans les villes, il allait à l'université ou dans un bar. Il prenait 3-4 mecs, mais n'importe qui. Hein. De toute façon, il faisait le boulot tout seul. Et ensuite, il arrivait, il rentrait sur scène uniquement quand il avait été payé en cash.
Il avait raison de se méfier, vous vous rendez compte, tous les musiciens de Nawar qui ont été volés à l'époque, c'est quand même dingue.
Oui, mais ça n'a pas de rapport avec le fait d'être payé en cash.
Au moins, on est sûr que c'est bon.
Ah non, mais
parce qu'ils auraient pu lui filer un chèque en bois.
C'est quand même un des inventeurs du rock, quoi. Donc oui, c'était formidable d'avoir vécu ça. Non, mais j'ai eu du bol, hein.
Et c'est le moins qu'on puisse dire. On se retrouve tout de suite avec Jean-Marie Perrier, rue François 1er.
Frédéric Taddeï. En balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
Le taxi nous a déposé devant le 26 bis rue François 1er, Europe 1, les bâtiments que notre station a quittés en 2018, mais que vous avez connus, vous, à vos tout débuts. Hein.
En 56, puisque c'est mon premier job, j'ai été engagé par Europe 1 pour... faire l'émission pendant un an avec Daniel et Franck Thénault, et je devais être le candide, quoi, c'est-à-dire poser des questions un peu bêtes. Alors ils ont été servis.
C'était l'émission sur le jazz à l'époque.
C'était pour ceux qui aiment le jazz. Ouais. Et le jour où j'ai demandé si Duke Ellington, Duke ça veut dire canard, et là ils se sont dit il faut arrêter quand même.
Et alors est-ce que la dame qu'on entend là, oui, qui est-ce qu'elle dernière... était déjà là en 1956? Parce que moi je suis arrivé à Europe 1 en 2005. Elle était assise à côté de l'immeuble. Ensuite, elle a traversé la rue et elle crie toujours la même chose. Et plusieurs fois, on est allé pour essayer de comprendre ce qu'elle voulait et on n'a jamais compris.
Mais même elle ne sait pas. Non, elle ne sait pas. Non, mais en fait, elle date de ce qu'on appelle le triangle d'or. Ma sœur m'a expliqué ce matin qu'aujourd'hui, on appelle ça le triangle mort maintenant. Parce que tous ces endroits qui faisaient vivre le quartier n'existent plus. RTL est parti, Europe, ouais. Le studio Marie-Claire que nous allons voir. Il n'y a plus rien. Tous les endroits, toute ma vie s'est passée dans ce quartier-là, de ma vie d'adulte. Et il ne reste plus rien. Et quant aux endroits dans lesquels j'allais avant, tu me dis je ne sors pas, tout à l'heure tu me dis je ne sors pas, mais comment... Tous les endroits dans lesquels j'allais sont devenus ou des musées, ou alors ils sont mythiques. Tous les mecs disent mythiques, mais ça m'énerve. T'achètes une brosse à dents, ils disent « Ah, vous savez que c'est mythique, votre brosse à dents ».
Mais ce qu'il y a, c'est que de toute façon, tout change tout le temps. Europe 1, on est nostalgique de cet immeuble où était Europe 1. Mais avant, c'était un studio de cinéma où Sacha Guitry tournait des films. Et lui, il devait être nostalgique de son studio de cinéma. Et après, ça a été la Voix de l'Amérique. C'était la radio américaine à Paris à la Libération. Elle était là où Europe 1 s'est installée ensuite.
Et Sacha Guitry l'a vu devenir Europe 1?
Ah bah oui, bien sûr.
Ah oui, alors,
il devait être nostalgique.
Il devait être affreusement nostalgique. Non mais c'est épouvantable.
Bah là, pour l'instant, il y a des échafaudages.
Ils vont faire quoi là-dedans? Il faut regarder les magasins pour chinois.
Je sais pas.
C'est comme les Champs-Élysées, les mecs. Tu vois, à la télé, ils continuent à dire la plus belle avenue du monde. Il y aura un shopping mall pour Shintok.
Donc là, on marche sur la rue François 1er, en direction de l'avenue Georges V, là où descendaient les Beatles, c'est là où vous alliez les voir.
Absolument. Et puis donc, sur cette route-là, on va arriver dans la prochaine rue, et il y avait le studio Marie-Claire. Alors le studio Marie-Claire, c'était mon premier job, j'étais assistant de Daniel Philippaki, qui lui était... Il avait été plus ou moins viré de match parce qu'il avait pris le pouvoir, et tout à coup... Il était photographe de mode. Mais alors, quand je te dis photographe de mode, c'est pas tellement pour les robes, hein. C'est pour ce qu'il y avait dedans, surtout. J'ai jamais vu un type être autant intéressé. C'était incroyable. Alors, tous les matins, j'arrivais à midi, parce que, comme il me l'a toujours dit, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tard. Donc, il arrivait et il me disait « Bon, tu fais ça, alors comme éclairage, ça. » Puis, il allait dans la loge. Il y avait des mannequins, mais à tomber par terre. Tous les matins, il en emmenait une. À l'hôtel juste à côté, là, il avait une suite à l'année. Il me disait, je vais avec mademoiselle prendre le thé. J'ai jamais vu un mec aimer autant le thé, hein, je peux te dire.
Et là, on est juste en face de chez Courrèges, là où André Courrèges a installé sa maison, rue François 1er. Courrèges, c'était le promoteur de la mini-jupe en France, avec sa mode futuriste, bottes à talons plats, mini-jupe blanche.
C'était pas très sexy, hein, en même temps.
Très sexy, blouson en PVC. Et je crois que les mannequins Courrèges ont toujours fait tourner la tête des passants sur la rue François 1er. Encore du temps où j'étais Europe 1, c'était toujours pareil. Hein.
C'est toujours pareil. Non, mais ils étaient assez curieux, les Courrèges, mais très sympathiques. Hein. Ouais. C'était des gens, ils avaient de la suite dans les idées, en tout cas, je peux te dire. Et voilà, donc le studio Marie-Claire était là.
Maintenant, juste ici.
Là, voilà.
Et à on côté descend. De Guy Laroche.
Oui. Et il y avait ce merveilleux photographe qui s'appelait Tabar. Tabar qui en fait gardait le studio et qui s'en occupait, mais qui, bon, il le tenait propre, quoi. Et c'est lui qui m'a appris quelque chose que je sais de la photographie, c'est lui qui les a appris. C'est un type extraordinaire. Personne ne s'y intéressait. Après ça, dès qu'il est mort, ils ont acheté ces tirages qui valent des fortunes maintenant.
On est à l'angle de la rue Marbeuf, on se dirige vers la rue Pierre Charron.
Alors la rue Pierre Charron, ce qui était extraordinaire, au 51, il y avait Paris Match Marie-Claire. Et il y avait un homme absolument génial qui était le patron, hein, le patron Prouveau, qui avait compris que pour que ces photographes fassent des miracles à Paris Match, il fallait leur laisser toute liberté. Ces mecs-là, ils faisaient rêver tout le monde, c'était des princes. Hein. Ils se tapaient des princesses, ils faisaient la guerre, ils roulaient en Ferrari. Et d'ailleurs, il était très pervers, Prouveau, parce que quand un photographe venait le voir en lui disant « Patron, ma femme a un deuxième enfant, il faut qu'on agrandisse », il lui disait « Ah, mon vieux, la vie est vraiment difficile ». Si le même venait en disant « Oh, j'ai vu une Ferrari », il lui donnait le pognon tout de suite. Mais c'était génial, parce qu'effectivement, les types étaient prêts absolument à tout. Et puis, c'est là que Daniel Filipacchi, qui était à ce moment-là photographe à Match, a inventé la fausse note de frais. C'est-à-dire que il faisait des notes de frais mais absolument monstrueuses. Et notamment un jour où, dans les années 50, un avion s'est crashé sur le Mont Blanc et Daniel est revenu avec la photo vue d'hélicoptère. Tu vois, malheureusement, il y a un mec qui a photographié, il était dans un hangar ou dans un musée, je ne sais plus, il y avait la maquette, il avait mis une Dinky Toys et il avait, sur une échelle, il avait fait la photo et il avait ramené une note de frais monstrueuse.
Ce qui fait pareil, à Europe 1.
Ah, sûrement, mais ce qui fait que, lorsqu'il est devenu grand patron, il n'a jamais emmerdé personne. Parce qu'il savait très bien, de toute façon, que d'abord, ils tricheraient, et en plus de ça, ça leur donnait la possibilité de vivre comme des rois.
Il a commencé par quoi ? C'était d'abord l'émission de radio Salut les copains, et ensuite le magazine, dont vous êtes devenu le photographe vedette.
Oui, enfin, c'est parce que lui, il avait décidé.
Ouais.
Il a fait l'émission de radio pour remplacer un chat, car c'était une fille, salut les copains, c'est une petite américaine que Lucien Maurice avait engagée pour un été pour passer de la musique américaine. Bon. Et elle avait une particularité, c'est qu'elle faisait son émission avec son chat et elle parlait à son chat. Et un jour, Lucien Maurice appelle Daniel, il dit « Elle est bien l'émission, mais on comprend pas bien ce que dit le chat, tu veux pas le remplacer ?» Et Daniel a commencé sa carrière en remplaçant un chat.
Mais il paraît qu'à Europe 1, ils n'aimaient pas du tout le jazz et ils n'aimaient pas non plus du tout les autres animateurs. Ils n'aimaient pas du tout non plus les yéyés à l'époque.
Ah non, non, non. Non, non, c'était Dalida. Il était marié avec Dalida, Lucien. Donc,
Lucien Maurice.
Ah oui, lui, c'est ça qui l'intéressait. Donc voilà cet endroit extraordinaire, 51 rue Pierre Charron, où là, c'était le contraire des journaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était un très bel immeuble avec une grande porte ouverte. Tout le monde pouvait rentrer. Et il y avait des canapés partout. Et tout Paris venait déconner là-dedans. Aujourd'hui, c'est des cages à lapins. Faut ta carte de crédit avec ta tronche dessus pour rentrer. C'est sinistre. Les mecs, ils sont à 3 mètres et ils s'envoient des mails.
On se retrouve dans un instant avec un grand nostalgique, avec Jean-Marie Perrier, devant les anciens locaux de Paris Match. Juste après les infos.
Europe 1, en balade avec Jean-Marie Perrier. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Jean-Marie Perrier, qui vient de publier dans la collection Loin de Paris un gros livre consacré aux années 60 et 70 qu'il a si formidablement pris en photo à tel point qu'on se demande si ces années-là ont existé vraiment ailleurs que dans les souvenirs de Jean-Marie Perrier. On est au coin de la rue Pierre Charron et de la rue François 1er devant l'immeuble où se dressait autrefois Paris Match. Paris Match, vous avez fait pratiquement vos débuts. J'ai l'impression que vous avez fait vos débuts partout.
Partout.
Au repas, au studio de Marie-Claire.
Je commence dans l'édition.
Dans Jazz Magazine. Vous étiez là partout et vous débutiez à chaque fois.
Absolument. Je suis un éternel débutant. Donc le 51, il y avait cet immeuble magnifique. Il y avait l'American Legion, ce qui nous permettait de jeter des capotes anglaises pleines d'eau sur la tronche des Amerlocs qui sortaient.
C'est devenu le Pershing Hall. L'hôtel Pershing Hall, l'American Legion, je crois.
Et il y avait un secret des photographes de match, dont Daniel évidemment, c'est que le deuxième étage, là, ou le troisième, je crois que c'est le deuxième, il y avait le bureau de Jean Prouveau qui donnait exactement sur une fenêtre du château Frontenac, l'hôtel en face. Et donc, quand des jeunes personnes passaient, il y en avait toujours un qui l'emmenait au château Frontenac avec la fenêtre ouverte. Et comme ça, eux, pendant qu'il n'était pas là, ils faisaient des photos de la scène de ce côté-là, de l'autre côté de la rue. C'était une fenêtre très, très célèbre.
Il y avait le château Frontenac et puis il y avait le coiffeur. Ça s'appelait comment, Georgel, non? Il y avait un coiffeur.
Georgel?
Ouais.
Vache, putain, j'ai oublié ça, Georgel.
Ah oui, il me semble, ouais.
Ah oui, Georgel, c'était...
Et il y avait le dentiste de Philippe Aki aussi, qui était juste en face.
Alors là, t'en sais plus que moi. Hein.
Ça, j'aurais jamais cru.
Ah non, non.
J'aurais jamais cru entendre Jean-Marie Perrier me dire ça.
Ah non, mais ne crois pas ça, parce que comme pour les années 60, je suis exactement comme le disait Robin Williams. Si vous vous souvenez des années 60, c'est que vous ne les avez pas vécues. C'est vrai, oui. Je ne me souviens de rien, moi.
Oui, c'est ce que reprend d'ailleurs Patrick Modiano dans la très jolie préface qu'il a fait de votre livre.
C'est vrai, il a écrit ça, mais je ne savais pas que c'était en rapport. Il ne le savait pas non plus.
Europe 1, 11h30, en balade avec Jean-Marie Perrier. Frédéric Tadeau.
Et puis alors, si on se tourne un peu à droite de l'immeuble, de l'autre côté de la rue François 1er, il y a la Belle Ferronnière, très beau café, toujours aussi beau d'ailleurs, qui était le grand rendez-vous là, à l'époque. C'était... Tous les journalistes de match étaient là en terrasse.
Avec leur imperméable et le Leica en bandoulière, c'était le centre.
Le photographe qui va à une terrasse de café avec son Leica en bandoulière, c'est un peu comme le type qui fait tourner la clé de sa Maserati.
Ben, il faisait les deux.
Ouais, c'est ça, c'est un peu lourdain.
Il faisait les deux, ça allait de la TR3 à la Ferrari en passant par la Maserati et le Leica en bandoulière, toujours, absolument.
Il y a une photo formidable de Jacques Dutronc que vous avez prise... vu de haut, il est dans avec une voiture filles. Décapotable avec que des filles seins nus à ras bord de la voiture.
Ça, c'était pour Lui Magazine, bien sûr.
Eh oui, j'allais vous en parler.
J'étais le plus mauvais photographe pour Lui Magazine.
Ah, c'est vrai?
Ah. Eh oui, parce que je n'étais pas du tout fait pour ça, du tout. Quand la fille se déshabillait, moi, je repeignais le plafond tellement j'étais gêné. Et elle commençait à m'exciter quand elle se rhabillait. Donc, j'ai rien compris au truc.
Ben, c'est pas plus mal, quand vous travaillez, vous travaillez.
Oui, non, c'est pas ça, c'est qu'il faut, être capable de projeter ses fantasmes. Moi, je suis beaucoup trop petit bourgeois pour ça.
Ah oui?
Ah
oui.
Ah
oui.
Ah non, je peux pas les donner comme ça à tout le monde.
Ah non. Et alors ça, c'était plutôt le fantasme de Dutronc, alors?
Non, c'était surtout parce que Dutronc, il en avait plein partout autour, à longueur de journée. Bon, donc c'était pour symboliser ça. Dans Lui Magazine, c'était parfait. Il était beau comme un dieu, hein. Il était vachement beau, il avait un succès fou, il avait 22 piges. Il y avait les filles qui dormaient dans sa chambre. Il y en avait même une, ça je l'ai déjà raconté, mais il faut que je te le dise, il y en avait même une qui passait par le toit. Quand il n'était pas là, elle passait par le toit, elle passait une acrobate, quoi. Elle passait par la fenêtre, elle refaisait son lit, puis elle partait après, une cinglée totale. Bon, quoi. Il y en avait plein. Donc il fallait bien montrer ça, évidemment, c'était aux grandes dames de Françoise.
Eh oui.
Mais bon, il faut se mettre à sa place, le mec. T'as 22 ans, t'es beau, t'as eu succès comme ça. Elles sont là, il n'y a qu'à se pencher, qu'est-ce que tu veux faire?
Europe 1, 11h30, en balade avec Jean-Marie Perrier. Frédéric Tadeau.
Il y a ce moment aussi très particulier, la première fois que vous voyez Johnny Hallyday, on vous fait rentrer dans sa chambre, il est en train de dormir. C'est l'obscurité, puis vous restez là dans la chambre, à attendre qu'il se réveille.
C'était
et il trouve ça normal.
Oui, je le connaissais pas du tout, moi. Alors donc c'est quand même un peu gênant, le mec qui m'ouvre la porte, il me pousse dans une chambre, il dit « attendez-le ». Et il dort, le mec, je suis dans la chambre de Jojo, je le vois à la forme blonde, et puis tout à coup, hop, il se réveille, il s'assoit sur le lit en face de moi, il prend une cigarette, il me fait « t'as pas du feu ?» Et j'en ai pris pour 50 ans, sans dire un mot.
Au fond, ça se passait bien à l'époque entre les photographes et les chanteurs. Il n'y avait pas cette barrière qui s'est dressée depuis. Mais c'est normal, aujourd'hui, ils fonctionnent comme des multinationales, ils
oui,
se protègent.
Oui. Non, mais d'abord, pour nous, tout ça, c'était pas sérieux. Et ensuite, on était là pour se marrer, on avait peur de rien. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils ont peur de tout, mon image, tout ça. Et ils croient que c'est très, très sérieux. Et puis c'est vrai que je vois les mômes qui chantent dans les interviews, ils sont structurés dans la tronche, c'est incroyable.
Oui, enfin, il faut voir aussi... Aujourd'hui, c'est plutôt chez les rappeurs qu'il faut regarder, surtout les rappeurs aux États-Unis, ils sont prêts à toutes les extravagances, eux aussi, en matière de communication. Ils ont peur de rien, non plus.
Oui, mais ils pensent qu'au business. Au fond, il n'y a que Claude François, à l'époque, qui pensait au business. Sans ça, les autres, non, ils ne pensaient pas au business. Non, non, c'était vraiment très, très... Puis alors, quand je les rencontre, moi, j'ai 22 ans, eux, ils ont tous entre 17 et 20, donc c'est l'histoire de gamins. Donc, c'est pas grave, on fait ça comme ça, en se marrant. Je les déguisais dans tous les déguisements possibles et imaginables, mais parce que c'était pour aller à la campagne déjeuner. C'était ça qui comptait.
Oui, vous aviez réussi quand même à faire des photos où, je crois, c'était Sylvie Vartan et Sheila qui étaient habillés en bécassine.
Oui, mais je leur ai dit, venez, je vous mettrai en bécassine, on va à la campagne, puis on ira déjeuner. Parce que c'était ça qui compte. On essaie de faire ça aujourd'hui avec Zaz et Mylène Farmer, bonne chance. Hein.
Vous avez pris des photos de Mylène Farmer ?
Oui, une fois. Mais alors, c'était, je l'aime beaucoup, cette personne. Mais alors, c'est une obsédée de la photographie, mais à un point. Alors, j'avais pris une chambre avec des polaroïdes. Ça coûtait la peau des fesses, chaque plaque, pour qu'elle puisse les voir tout de suite. J'en ai dû en faire une soixantaine. Et elle en a choisi deux. Tous les autres, elle les déchirait.
C'était... Alors qu'à l'époque, ils ne regardaient même pas. Ils ne demandaient même pas à voir les photos avant publication.
Ils ne savaient même pas
qu'on pouvait les regarder.
Non, puis ça leur était égal. Ils avaient confiance. Bon, mais en même temps, bon, elle est sur scène. En fait, je comprends. Je veux dire, ils sont sur scène, ils sont sur la photo. En fait, ils ont tous les droits. Mais à l'époque, ils ne le savaient pas. C'est ça l'avantage.
On se retrouve avec Jean-Marie Perrier juste après ça.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
Nous marchons avec Jean-Marie Perrier dans la rue Pierre-Charron, direction des Champs-Élysées. Il commence à pleuvoir. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de monde.
Non mais regarde-moi cette avenue, à quoi ça ressemble aujourd'hui, c'est monstrueux. Non mais c'est absolument ridicule.
Parce qu'on parle de touristes, parlons des Beatles, dont vous devenez très copains. Pratiquement à leur début, c'est quoi, 64 à peu près, hein,
eux, c'est 64, et les Stones aussi. D'ailleurs, les Stones, ils n'avaient même pas encore sorti leur disque.
Et les Beatles, c'est après leur Olympia, et où Sylvie Vartan était en première partie. J'ai l'impression que vous ne les preniez pas très au sérieux, les Beatles.
Non, mais au départ, il faut comprendre une chose. Pour moi, c'est pas les Beatles avec un grand B. C'est quatre mecs qui font de la musique sympa, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est vrai. Alors aujourd'hui, évidemment, ça semble curieux. Mais il ne faut pas oublier que la première fois qu'ils posent pour moi dans Salut les copains, c'est parce que leur manager voulait qu'ils soient dans ce journal, qui était le seul du genre. Personne ne peut le croire aujourd'hui.
Oui, c'est le seul journal qui parlait de cette musique-là.
Oui, oui. Mais ce qui était formidable chez eux, c'est que d'abord, ils se marraient. Alors, pendant les 4 ans, ça n'a pas duré longtemps, 4-5 ans, mais ils se marraient. Hein. Ouais. Oh, ils se marraient,
les tournées. Vous êtes tout le temps avec eux, j'ai l'impression.
Oui, les tournées avec eux, c'était... Non, j'étais beaucoup plus avec les Stones, très vite. Mais avec les Beatles en tournée, ils vivaient à l'envers, les mecs. Tu sais, c'est-à-dire, je me souviens, en Italie, alors, ils se levaient assez tôt, quand même, à 7h du soir. Ensuite, ils prenaient le petit déjeuner. Ensuite, ils allaient travailler sur scène. Ensuite, il y avait le déjeuner à 1h30 du matin. Ensuite, ils visitaient la ville. Alors, on leur ouvrait des cathédrales. Ils avaient des boîtes de nuit, tout ça. Puis, ils allaient se coucher vers 10h, assez tôt, en fait.
10h du matin.
À l'envers.
Frédéric Taddeï se balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
C'était qui votre préféré, les Beatles ?
Des Beatles, c'était George. Ouais. Paul était adorable et très accessible. Mais George était tellement secret et vraiment gentil, quoi. John était un type génial, mais putain, une tête de lard, dis donc.
Vous êtes engueulé avec lui, non ?
Ouais, je veux dire, c'est comme ça que j'ai arrêté de faire des photos d'eux à Bayreuth. Il m'avait engagé pour faire des pochettes de disques pour le marché anglais. Et donc, j'ai fait un studio dans Bayreuth pendant Sgt. Pepper. Bon, ce qui est quand même, aujourd'hui, évidemment, c'est extraordinaire à dire. Mais bon, voilà, j'avais fait un studio. Et alors, je les attendais parce qu'il fallait pour le journal qu'ils soient tous les quatre ensemble sur la photo. Alors, c'était compliqué. Hein, parce qu'il y en a toujours un sur le toit en train de parler aux anges, là, donc c'était un peu compliqué. Mais à la fin, en leur montrant les photos quelques semaines plus tard, je me suis engueulé avec John, il n'était pas d'accord. Et donc je suis parti. Bon, j'ai eu tort, évidemment, mais j'étais tellement fou de Mick Jagger à l'époque que j'ai enchaîné sur les Stones, mais alors vite fait. Hein.
Bon, bah écoutez, les Beatles, c'est difficile parce que tout le monde connaît toutes les chansons des Beatles. Il y en a une qui est moins connue que les autres, c'est She's a Woman. Même vous, vous ne la connaissez pas, vous voyez.
Je me souviens pas.
She's a Woman, 1965.
My love, don't give me presents. I know that she's no peasant. Only ever has to give me love forever and forever. My love, don't give me presents.
She's a Woman, enregistrée par les Beatles en 1965, une chanson qui n'est sortie qu'aux États-Unis.
Oui, bon, ça va, ne roule pas, ça va.
Mais vous étiez déjà copain avec les Stones à ce moment-là.
Ah oui, c'était formidable.
Voilà. Ils n'ont pas voulu, les Beatles, les trahir pour les Stones ?
Non. Non, mais attends, je les ai pas vus tant que ça non plus, parce qu'il y avait quand même Johnny, Sylvie, Françoise Dutronc.
Qui vous occupait
avait,
beaucoup.
Bah oui, il y avait quand même...
Ouais, j'avais mon plus tous les autres que vous avez photographiés.
J'avais mon cheptel.
Oui, donc, votre usine.
Je n'avais pas le temps. Usine. Mais je dois dire que les Stones, c'est ce que j'ai vécu de plus extraordinaire sur scène. Vraiment, c'était fantastique. Et tourner avec eux, c'était absolument magique. Mais au départ, les mecs, ils prennent le train. Hein.
Oui, oui, il y a des photos d'eux dans le train. Ils vont à Marseille, jouer à Marseille. Ils sont dans le train.
Ils s'achètent des petites oranges et des sandwichs. C'est merveilleux.
Il y a cette histoire que vous racontez, où vous remontez, je crois que c'est de Marseille, vers Lyon, en voiture, et ils s'arrêtent, vous arrêtez dans un routier.
Mais non, ils avaient faim à 4h du matin en 66. Je veux dire, c'est pas facile la nuit. Et je trouve un routier, et je m'arrête. Mais alors, la rentrée dans un routier français en 66, avec les Rolling Stones, Les autres, c'était en arbre de Noël. Enfin, c'était absolument infernal. J'ai cru qu'on allait se faire lyncher. Hein. Vraiment, on était à passer à deux doigts de ça. Et c'est grâce au concours du lait Mont-Blanc de Europe 1 qu'on a été sauvés. Parce que là, les mecs, ils allaient vraiment nous casser la gueule. Tout à coup, il y a 80 mômes qui débarquent à 4h du matin, qui allaient vers la montagne. Ils tombent sur les Rolling Stones.
C'était les gagnants du concours.
C'était extraordinaire. Ça nous a sauvé la mise. Hein. J'ai pris les hot dogs vite fait et on s'est barré.
Il faudrait refaire des concours sur Europe.
Ah oui.
On poursuit notre balade avec Jean-Marie Perrier, toujours sur les Champs-Élysées.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
Notre balade avec Jean-Marie Perrier se termine. On est devant la vitrine Renault des Champs-Élysées, où il y a toujours des voitures.
Quelle excitation.
Elle était déjà là, cette boule.
Ah, oui,
déjà dans les années 60.
Pour une fois qu'il y a quelque chose qui date de l'époque.
Ici, il n'y a pas loin. On n'est pas loin de ce qui était le caramel. Vous avez entendu Claude François chanter pour la première fois, vous vous souvenez? Vous étiez avec Philippe Aki.
Oui, il était batteur d'Olivier Despax.
Voilà. Et il chantait une petite chanson à la fin.
Oui, et Despax, c'est une espèce de Sacha Distel de Neuilly. Très gentil mec, mais bon, il n'est pas un organe extraordinaire.
Il avait joué un peu dans des films. Je crois qu'il est dans Le Dernier Train du Katanga.
Oui, où il se fait d'ailleurs mettre comme une grande. Hein.
Je ne sais pas ce que vous entendez par là.
C'est-à-dire que c'est épouvantable, il se fait violer dans le train par des Zoulous. Des Zoulous. Je vois la séance quand il a montré le film à ses parents, ça devait être quand même curieux. Et alors au caramel, donc il chantait. Et Claude François était son batteur. Et il m'avait dit, mais venez me voir, venez, parce qu'il voulait absolument rencontrer Philippe Aki. Donc j'ai emmené Daniel. Et on est allé le voir, l'autre chantait bon la guimauve, et à la fin, dis donc, putain, une bombe qui arrive sur la scène et qui fait un truc de au moins une chanson d'au moins une heure.
Bon, en même temps, attends, c'est Claude François, c'était pas James Bond.
Ah non, il était formidable. Non, il était formidable. Et puis c'est quand même le mec qui a inventé les Claudettes.
Rien bah, qu'il a piqué à James Bond.
Oui, mais ça fait rien. Il piquait tous aux Américains. Bon.
Mais il habitait pas loin, rue Troyon, dans l'hôtel Magda.
Ouais.
C'est un hôtel un peu spécial, non?
Oui, c'était un hôtel pour femmes légères, disons.
Ah oui.
À droite, à gauche, ça valsait bien. Mais quand je l'ai vu la première fois, il y avait plein de photos de lui en noir et blanc partout sur les murs.
Et des photos de lui ou des photos du magazine?
Des photos de lui. De lui, mais d'avant, quoi, en noir et blanc. Bon. Et je lui dis, bon, on va faire des photos de toi. Alors, qu'est-ce que t'as? Et il me montre son armoire. Il y avait deux vestes et deux pantalons. Je lui dis, mets celle-là. Et j'ai jamais vu un mec retirer un pantalon et le plier comme ça a pris une plombe. J'étais en admiration. Parce que moi, mon enfant gâté, là, je balançais mes frocs comme ça. Et là, ça m'a vraiment touché. Parce que le mec, il venait de loin. Hein, vraiment.
Vous racontez que vous dormiez avec lui en tournée. Parce que c'est le seul moment où il pouvait vous parler.
Oui,
il vous obligeait à dormir avec lui.
Oui, il m'aimait beaucoup, en fait. Il voulait qu'on parle. Bon, alors une tournée, bon, surtout qu'en plus, à l'époque, il leur faisait faire Marseille-Lille. Hein. Bon, alors donc, il fallait. Le seul moment où on pouvait parler, c'était de la nuit. Donc, j'ai dormi avec lui. Alors, la tronche des groupies le matin, c'était épouvantable. Et moi, il me racontait sa vie, son enfance en Égypte et tout. C'était fascinant. C'était vraiment fascinant.
Je crois que c'est vous qui avez trouvé le nom de sa maison de disques, les Disques Flèche.
Oui, pendant cette tournée-là, d'ailleurs. C'est-à-dire, il m'a demandé, parce que je trouvais ça très sympathique de sa part, de me faire une telle confiance. Il me dit, je vais faire une maison de 10, trouve le nom et le logo. Bon, alors je lui ai dit, toi, c'est Flèche. Tu vois, ça va vite, ça fonce, c'est nerveux. Et puis en plus, on peut faire une photo de toi en clodo avec la flèche en bas, comme ça, si tu te casses la gueule, tu pourras toujours t'en servir. Bon, ça prouve qu'ils avaient quand même de l'humour, les mecs. Ils acceptent
la fête,
ça.
Ils la fête, la fête.
Ah, et Sheila en Jeanne d'Arc, alors attends, faut quand même pas.
La plus drôle, c'est Sheila. Comment ce serait si elle allait en enfer? Et vous la montrez, Sheila, en enfer, toute seule, avec que des grands musiciens qui se foutent de sa gueule.
Oui, mais c'est là où elle est formidable, c'est qu'elle, je lui ai dit, elle savait. Et elle, ça la faisait marrer. Puis en plus, l'idée que ça pouvait peut-être un peu énerver son producteur, je pense que ça lui plaisait beaucoup.
Frédéric Taddeï se balade avec Jean-Marie Perrier sur Europe 1.
Alors vous avez été photographe dans les années 60, cinéaste dans les années 70.
Pour Dutron, oui.
Ouais, pas seulement, Tumu Kumak, Antoine et Sébastien, Sale Rêveur. Dans les années 80, vous faisiez des films publicitaires à Los Angeles, on avait bien
oui.
fait 600,
absolument.
700. Hein.
Oui, oui, absolument.
Dans les années 90, vous faisiez des photos de mode pour le magazine Elle, que dirigeait votre sœur, Anne-Marie Perrier. Et puis les années 2000, vous faites quoi alors? Vous vous souvenez en fait?
Ah ben non, pas oui, j'essaie. Non, bah je vis dans l'Aveyron, ce qui est une vie en soi. Et puis je fais des expositions, je fais un spectacle de temps en temps. Je suis très très occupé. Pour un mec qui se remet à la retraite, je suis très très occupé. Non mais c'est vrai, j'ai changé de vie tous les 10 ans.
Oui, toujours.
Les 10
ouais,
ans,
ouais.
Par hasard, hein, j'ai changé. C'était deux vies, deux métiers, deux femmes, deux pays, de tout.
De tout.
Et résultat, tout ça c'est parce que j'ai pas fait de musique. Parce qu'en fait, tout ça, c'était ça ma vie, moi. Et bon, je n'ai pas été musicien parce que je voulais ressembler à mon père, François Perrier. Donc, j'ai commencé à être blanc, quoi. J'ai fermé le piano.
Vous voulez dire, je fais les sous-titres, parce que vous ne vouliez pas ressembler à votre autre père, votre carte biologique.
Mon géniteur.
Henri Salvador.
Oui, non, mais ça, je ne prononce même plus son nom. Mais c'est une autre histoire. Mais donc, comme je n'avais fait rien à foutre de ma vie, moi, donc, en fait, j'ai pu faire n'importe quoi. Et j'ai fait effectivement n'importe quoi, sans apprendre.
Mais vous l'avez bien fait.
Oui, j'étais doué, parce qu'en fait, je me suis démerdé dans chaque boulot. Alors, c'est peut-être une sorte de vie ratée, puisque finalement, moi, ma vie, elle s'est arrêtée en 1956. Mais alors, quelle belle vie, hein. Oh, putain.
Le sursis était pas mal, ouais. Merci, Jean-Marie Perrier, de nous avoir emmenés en balade avec vous. Je vais remercier le Café de Flore. On a
oui.
commencé cette balade et où en plus où j'ai oublié un paquet, il faut que j'y retourne. Et je rappelle que votre nouveau livre, très gros livre, 1960-1970, est paru dans la collection Loin de Paris. C'est chez quel éditeur?
Privat.
C'est chez Privat.
C'est le Midi-Pyrénées.
C'est l'Aveyron, vous retournez bientôt.
Évidemment.
Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon dimanche, de bonnes fêtes. Une très bonne nouvelle année. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle balade à 11h.